en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. À travers son rap, son slam, ses films et ses livres, il s'est imposé comme une des têtes de pont de la culture urbaine française et peut-être de la culture tout court. Il est d'ailleurs artiste associé et ambassadeur du Théâtre de la Ville, qui vient de fêter son cinquantenaire, un théâtre parisien encore en travaux. Alors c'est dans la maison d'en face, au Théâtre du Châtelet, qu'il présente actuellement en coproduction sa nouvelle création, Les Justes, d'après l'œuvre d'Albert Camus, qu'il adapte, dit-il, en tragédie musicale. Camus, un auteur qu'il affectionne et qui le guide depuis un certain temps maintenant et qu'il évoque également dans Méchante blessure, le roman qu'il publie parallèlement aux éditions Plon. Abdelmalik est avec nous aujourd'hui sur RFI et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
C'est vrai que c'est pas la première fois que vous vous emparez d'Albert Camus et de son œuvre. Vous avez même publié en 2016 un ouvrage intitulé Camus, l'art de la révolte. Revenons un tout petit peu en arrière. Comment est-ce que vous avez découvert Camus? À l'école, comme beaucoup de gens?
Ouais, à l'école. Je devais avoir, dans les 12 ans, on a lu un texte, ou un extrait de texte, je crois que c'était un extrait de texte de L'Étranger. Puis moi, ça m'avait vraiment marqué, et j'ai voulu aller plus loin, à titre personnel.
Mais pourquoi ça vous a marqué?
Je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait écho au garçon que j'étais, en fait. Il y a quelque chose qui faisait écho, rapport à mon contexte de vie, rapport, même s'il parlait pas nécessairement de ça, mais j'ai pressenti quelque chose. Il y avait quelque chose qui, je sais pas, j'ai ressenti une sorte de fraternité. Quelque chose qui faisait vraiment écho en moi. Et en tout cas, quelque chose qui m'a poussé à aller moi-même, aller plus profond, chercher d'autres ouvrages. Et l'ouvrage que j'ai lu tout de suite après, celui que j'ai acheté moi-même tout de suite après, c'est son premier ouvrage, L'Envers et l'Endroit. Et à partir de là, ça s'est plus arrêté, en fait.
Vous parliez de fraternité, Abdelmalik. Est-ce qu'on peut dire que Camus est devenu pour vous une sorte de grand frère, on va dire, comme on emploie cette expression dans les cités en France?
Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça a été vraiment une figure, une figure tutrice, comme ça, un tuteur, quelqu'un qui a permis, si on prend l'image toujours de la plante, qui m'a permis de pousser droit. Et parce que justement, il y avait plein de points de conjonction entre son histoire propre et la mienne propre. Et il m'a appris énormément de choses et il continue à m'apprendre des choses, notamment cette idée de cohérence. Et donc voilà, oui, c'est, moi je l'ai vécu comme ça. En tout cas, je l'ai pas vécu comme un être de papier. Je l'ai vécu comme un être de chair et de sang, un frère réellement.
Alors pourquoi monter Les Justes aujourd'hui, Abdelmalik?
Ben parce que comme l'œuvre de Camus en général, j'ai le sentiment concernant Camus, à la fois Camus l'homme et Camus son œuvre, que c'est encore plus pertinent aujourd'hui au XXIe siècle qu'à son époque. Ça fait tellement écho à ce qu'on vit aujourd'hui, mais en même temps, ça nous propose des solutions. C'est pas juste un constat, c'est aussi qu'il nous propose presque une méthodologie, un être au monde concret. Et donc en fait, moi quand j'ai lu Les Justes, je me suis dit ça parle d'aujourd'hui et de maintenant, et c'était essentiel que qu'est-ce que signifie l'engagement au XXIe siècle, qu'est-ce que signifie lutter contre toutes les formes d'injustice, qu'est-ce que signifie la révolution lorsqu'on est en démocratie, etc. Toutes ces choses-là, pour moi.
Jusqu'où peut-on aller dans un combat au nom de ses engagements, au nom d'un idéal?
Exactement. Et Camus nous dit clairement, la fin ne justifie jamais les moyens. Il dit que, ok, l'engagement, très bien, mais il y a des limites. Et ces limites, ce sont les enfants et les innocents. Et dans Les Justes, justement, il y a ces deux figures-là. Si on connaît un peu l'histoire, on sait qu'il a écrit Les Justes en réponse au Mainsal de Sartre, et qu'il y a cette figure de Stéphane qui, pour lui, la fin justifie les moyens, et la figure de Yannick qui est finalement Camus lui-même, et c'est la confrontation de ces deux idées-là.
Alors la pièce a été créée à Paris en 1949, elle est basée sur des faits réels, elle raconte la préparation et les suites de l'attentat à la bombe qui a été perpétré à Moscou en février 1905 contre le grand-duc Serge, qui était l'oncle du tsar, par des anarchistes, des terroristes révolutionnaires. C'est un peu une forme de répétition de la révolution de 1917, une douzaine d'années auparavant.
On peut dire ça.
Et donc Camus nous emmène à travers cette pièce du côté des terroristes, donc dans la préparation de cet attentat, du côté des organisateurs, avec effectivement ces débats internes, jusqu'où aller, ou jusqu'où peut-on rester humain, jusqu'où peut-on rester fidèle à son idéal? Est-ce que, effectivement, comme vous le disiez, la fin justifie les moyens? Donc on est en fait dans trois temporalités, quoi. Il y a le début du 20e siècle russe, il y a le tournant des années 50, donc au moment où la pièce a été créée, et puis il y a le monde d'aujourd'hui. Exactement. Vous avez joué dans la façon de créer ce spectacle sur ces trois temporalités-là?
Ouais, totalement. Mais pas juste dans la façon de créer le spectacle, mais même au début. J'ai envie de dire, au début, dans l'idée même de monter ce spectacle-là. Le fait de se dire que, voilà, des jeunes, qui ont entre, je sais pas, ils ont entre 18 et 25 ans, on peut dire ça en gros, comme ça, qui, comment dire, veulent lutter contre la tyrannie, finalement. Et mon idée, c'était de dire, OK, voilà leur démarche en 1905. Qu'est-ce que ça signifie, pour nous aujourd'hui? Et de la manière dont Camus l'aborde. Et comment moi je peux amener d'une certaine manière la mettre en résonance véritablement avec aujourd'hui et maintenant. D'abord, ce qui était important pour moi, c'était de garder l'esprit de la pièce que Camus a voulu, les enjeux que Camus met en question. Ça, c'était la première des choses. Et pour ça, il s'agissait de pas faire d'amalgame entre ce qu'ils appelaient le terrorisme eux et ce qu'est le terrorisme nous aujourd'hui. Et pour moi, pour enlever toute forme d'ambiguïté, c'était essentiel pour moi que ça se passe en 1905. Précisément.
Donc les costumes le disent très clairement et on sait qu'on est en Russie.
Voilà. Et ça, c'était clair pour moi. Et ensuite, le fait de dire que quand Camus écrit en 49, il n'y a pas encore eu les indépendances en Afrique, en Asie et tout ça. Et mon idée, c'était de dire que quand ces pays vont prendre leur indépendance, ils vont choisir l'idéologie finalement qui est en mouvement, qui est à la base là en 1905, qui commence à savoir, pour faire court, on va dire l'idéologie communiste. Et de mon point de vue, on allait assister aussi ensuite au même pourrissement d'un idéal, d'une certaine manière. On parle de cette idée de justice, de lutter contre toutes les formes d'injustice, d'égalité, etc. Et puis on finit, c'est les dictatures, etc., etc. Et donc ces différents pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, etc., allaient vivre ça. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire que finalement, si je mets un cast dans mon cast, dans les acteurs que je choisis, qui est des Français d'origine maghrébine, qui est des Français noirs, qui est des Français blancs, qui est des Français d'origine asiatique, c'était le fait de dire qu'en 1905 à Moscou, en puissance, le monde était déjà là. Et c'était souligner à la fois l'universel, bien sûr du propos de Camus, mais aussi l'universel de ces grandes situations, de ces grandes histoires sociales, politiques, qui finalement font écho. Et concerne l'humanité dans son entièreté. Donc l'idée de mettre ce casting-là, c'était pas le fait de dire on va mettre la diversité, etc. Mais c'était le fait de dire que finalement, voilà des histoires, ce sont des histoires qui nous parlent à tous et qui nous concernent tous.
Au début du spectacle, sur la scène du Théâtre du Châtelet, Frédéric Chaud.
J'ai la foi de notre tsar, le Batiushka, le petit père et le représentant de Dieu sur Terre. Défenseur des va-nu-pieds tels que moi, oui, j'ai la foi. Je connais les travers des fonctionnaires, les méfaits des hommes bien-nés, mais Batiushka, jamais d'erreur ne commet. Oui, j'ai la foi. Il faut de l'ordre, ne pas faire des ordres, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, comme le demande le dogme, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, ne pas faire des ordres, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, comme le demande le dogme, respecter l'ordre des choses. J'ai la foi, les terroristes qui assassinèrent Alexandre II dirent que ce n'était pas au tsar mais au régime qu'ils mettaient le feu. Mais le tsar et le régime ne sont pas deux, je crois. Oui, j'ai la foi. Ma religion aussi invite au sacrifice. Faire bloc pour que se maintienne l'édifice, c'est édifiant. Chacun est mu par sa perception. Oui, j'ai la foi. Mais il faut de l'ordre, ne pas faire des ordres, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, comme le demande le dogme, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, ne pas faire des ordres, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, comme le demande le dogme, respecter l'ordre des choses. J'ai la foi en ce vaste territoire et notre tsar conquérant. Voyez, il n'y a pas nécessité de changement ou de renouvellement de schéma. Oui, j'ai la foi. Je connais fort bien la rébellion, les traîtres et leur façon, la jeunesse et sa révolution. Et fort heureusement, oui, j'ai la foi. Il faut de l'ordre, ne pas faire des ordres, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, comme le demande le dogme, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, ne pas faire des ordres, respecter l'ordre des choses. Il faut de l'ordre, comme le demande le dogme, respecter l'ordre des choses.
Voilà, Frédéric Chaud en uniforme, hein, il incarne le gardien de prison, Abdelmalik. Les mots que vous avez mis dans sa bouche, ce sont les vôtres, ce ne sont pas ceux de Camus.
Ce sont les miens, ce sont les miens. Ouais.
Comment est-ce que vous avez procédé, justement? Vous êtes parti de la pièce pour pouvoir écrire ce prologue et cet épilogue, parce que c'est lui qui ouvre et qui clôt la pièce. Pourquoi c'était indispensable?
Ben, juste de contextualiser, en fait, et de dire comment... Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse fortement, c'est de dire, d'abord, pourquoi se révolte-t-on et pourquoi on ne s'est pas révolté avant? Et j'ai toujours, moi, c'est ce moment que je trouve intéressant, en fait. Et en réalité, quand on regarde bien les choses, c'est tout simplement ces rapports à une croyance, le fait de croire en l'occurrence, là, on parle du tsar, le fait de croire en des êtres. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a affaire à un pays qui est énorme, en fait. Et cette figure, la figure du tsar, c'est presque une figure divine. Et il lui prête presque une adoration, en fait. Et donc, du coup, ça détermine plein de... Et puis, la pièce se passe, le questionnement se met en route, et il termine, il commence, il dit « j'ai la foi », et il termine en disant « ai-je la foi ?». Et il y a cette idée où, à un moment donné, nos convictions sont ébranlées, rapport à ce qu'on voit, rapport à ce qu'on vit. Et c'est de ça que je voulais parler.
Et ce prologue immédiatement précède donc la tragédie musicale au sens propre, hein, puisque c'est les mots que vous employez, vous, Abdelmalik, pour nous expliquer ce que vous avez voulu faire à travers ce spectacle, avec une musique composée par votre compagne Wallen et par Bilal, qui est votre compositeur attitré. Comment est-ce qu'ils ont écrit cette musique? Ils sont partis du texte ou vous leur avez donné des consignes précises? Comment ça s'est passé, la création musicale?
Comme on travaille habituellement, c'est-à-dire c'est de longues discussions sur nous, ce qui nous intéresse. En fait, moi, je pars de quelque chose de particulier, c'est que Camus il y a une musique chez Camus, dans ses textes, dans tout ce qu'il écrit, il y a une musique. Et même si on va dans des...
musicalité de la langue
de la langue camusienne. Et si même on va dans des archives et on essaye d'écouter Camus, de le voir, il a un débit, un flow, comme on dit dans le rap, très particulier, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de rendre cette musique-là, cette musicalité-là concrète, et qu'elle soit en dialogue avec son texte à lui directement. C'est-à-dire que ce soit pas juste quelque chose qui soit là posé pour juste là tapis sans interaction. Je voulais que ça dialogue, que le texte de Camus dialogue avec cette musique-là, qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les deux. Et donc voilà, donc on a parlé, puis ces musiques arrivaient, et puis je lisais le texte, j'ai enregistré moi-même toute la pièce en musique.
Donc c'est pas les comédiens, c'est vous qui vous y êtes collé.
Ah ouais, c'est moi qui m'y suis collé au départ, et ensuite eux aussi, et ensuite ils ont fait le même exercice, et ils ont enregistré, on est allé en studio, ils ont enregistré eux-mêmes leur voix, etc. L'idée, c'était vraiment de d'intégrer cette musique-là pour qu'il se passe quelque chose entre leur diction et la musique elle-même.
Mais donc, alors justement, l'idée de la musique, c'est quoi? C'est de suggérer, c'est donc de faire naître des émotions en plus des mots, c'est de compléter les mots, c'est d'appuyer, c'est de les accompagner.
Oh, c'est de mettre en dialogue. Les mots, c'est une sorte de résonance presque essentielle. Moi, mon idée, j'ai un mantra de vie comme ça, et j'en parle assez souvent, c'est préserver le patrimoine et cultiver la modernité. C'est-à-dire prendre ces grandes autrices, ces grands auteurs, ces grands textes classiques qui font partie du patrimoine, et les mettre en écho, en lien avec la culture d'aujourd'hui, avec le rap, avec le hip-hop, avec les cultures urbaines, et mettre tout ça en lien, en fait. Et l'idée, c'était de dire que de parler de transmission, de parler de faire se rencontrer ceux qui soi-disant ne se rencontrent pas, et dire que tout ça finalement est homogène, pourvu qu'on se donne les moyens de créer de l'harmonie entre les deux.
Mais alors, ce patrimoine là puisque vous parliez vous-même de patrimoine, vous l'avez laissé intact, vous l'avez pas aménagé. La langue de Camus, les mots de Camus, vous n'avez pas voulu la contemporanéiser,
non,
si
non,
vous passez
non,
le mot.
Pas du tout. Vraiment, l'idée c'est aussi d'inviter à la complexité et à la densité du texte de Camus. Et pour moi, on fait pas de la culture au rabais. L'idée, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont réellement et de les rendre digestes. Et c'est de la vulgarisation, mais au sens noble du terme, j'ai envie de dire.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Ils sont en place. Stéphane a allumé sa cigarette.
À quelle heure le grand duc doit-il passer?
D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non.
Assieds-toi, sois patient.
Et les bombes?
Assieds-toi, nous ne pouvons plus rien faire.
Si, les enviés.
Ta place est ici, tu es le chef.
Je suis le chef, mais Yannick vaut mieux que moi, c'est lui qui peut être.
Le risque est le même pour tous, celui qui lance et celui qui ne lance pas.
Le risque est finalement le même, mais pour le moment, c'est Yannick et Alexis qui sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec eux, mais quelquefois pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode après tout. d'être forcé de ne pas lancer la bombe.
Et quand cela serait, l'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut et jusqu'au bout.
Comme tu es calme.
Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous, 2 ans que je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté et je crois que je n'ai rien oublié.
Bien sûr, Dora.
Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier.
Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois? La vie brillante, les femmes. Oui, j'aimais les femmes, le vin. Ces nuits qui n'en finissaient pas.
Je m'en doutais, Boria. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri.
Que dis-tu là, toi? Ce n'est pas possible.
Écoute! Non, ce n'est pas lui. Mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris.
Attention, Stéphane a fait un signe, c'est lui. Dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé sa bombe. Et Alexis. Regarde, Stéphane revient sur ses pas et court vers le théâtre.
Yannick est arrêté. Il est arrêté, c'est sûr. Il faut faire quelque chose.
Attends. Non, c'est fini.
Comment est-ce arrivé? Yannick a arrêté sans avoir rien fait. Il est prêt à tout, je le sais. Il voulait la prison et le procès, mais après avoir tué le grand-duc, pas ainsi. Non, pas ainsi.
Abdelmalik, sur la scène du Châtelet, il y a une sorte de maison de poupée, hein, un immeuble dont les murs sont évasés, donc le spectateur voit à travers les murs comme s'ils étaient transparents. Et c'est dans ce bâtiment, donc imaginé par Amélie Kirit-Stopor, et dans la rue, hein, qui se trouve en dessous, dans laquelle on croise des passants, qu'évoluent vos acteurs, que certains de nos auditeurs connaissent bien. Alors, on va pas tous les citer, mais il y a par exemple Sabrina Ouazani, Marc Zinga, Lies Salam, Karit Jatouré ou Clotilde Courau, qui a juste une scène, hein, dans le rôle de la grande duchesse. Alors, vous disiez tout à l'heure que votre souci premier n'était pas de faire un casting qui montre cette diversité qu'est la France aujourd'hui. Mais j'insiste un petit peu parce qu'il se trouve que dans Méchantes blessures, le roman que vous publiez parallèlement aux éditions Plomb, on croise un des personnages qui est un agent qui galère parce qu'il a beaucoup de clients qui sont noirs et qui n'arrivent pas à décrocher des rôles au cinéma ou au théâtre. Est-ce que vous avez voulu quand même un petit peu, même inconsciemment peut-être, rétablir une forme d'équilibre, rétablir une forme de justice?
Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, mon souci n'était pas la diversité, mais parce que la diversité, elle est là, c'est de fait, en fait. On nous parle souvent de vivre ensemble, mais on vit ensemble, on la voit, cette diversité-là. Le problème, c'est pas tant de vivre ensemble que le faire ensemble.
Et parce que on a peut-être du mal à admettre qu'on puisse voir aujourd'hui cette diversité-là sur les scènes de théâtre parisien.
Ah ben évidemment, sinon on le verrait plus souvent. C'est aussi simple que ça. C'est une réalité, c'est concret. Mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours encore une fois, je vous ai parlé de la complexité, je vous ai parlé de la nuance et ces choses-là. Et si j'ai voulu cette diversité-là, c'est parce que d'abord philosophiquement, ça nous dit quelque chose sur ce que je vous ai dit, sur comment l'histoire, parler du rôle de l'histoire, comment ça influe, comment ce qui s'est passé en 1905 a un écho aujourd'hui, aujourd'hui au 21e siècle, et parler du mouvement des peuples, et parler du mouvement des idées. Et c'est en ce sens-là que la diversité s'imposait, j'ai envie de dire. Mais si c'est vrai là, en réalité c'est vrai à tous les étages. Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour peu qu'on voit le monde à l'heure de la mondialisation, on voit le monde tel qu'il est, et bon, on pourra pas faire autrement que de mettre en mouvement et de questionner cette diversité-là.
Diversité sur la scène, de fait, diversité aussi dans la salle. Est-ce que ceci explique cela, Abdelmalik?
Mais oui, forcément.
Ça vous agace un peu que je pose la question?
Non,
je pense que beaucoup de gens ont dû se la poser
quand ils sont entrés
dans la salle, parce qu'on n'a pas cette diversité normalement dans les salles de théâtre, dans les salles de théâtre parisiennes, y compris dans les salles de théâtre grand public, comme celle du Châtelet, qui fait beaucoup de comédies musicales. On a rarement cette diversité.
Mais oui, franchement, ça ne m'agace pas du tout. Si vous voulez, c'est juste parce que pour moi, c'est pas ce qui vient en premier lieu. En premier lieu, ce qui est important, c'est de dire qu'il n'y a aucun lieu de la culture qui soit fermée à qui que ce soit. Et tous ces hauts lieux de la culture, ces institutions culturelles, l'idée, c'est aussi de dire que elle doit réfléchir à leur ligne éditoriale, précisément si elles ont envie, et c'est leur devoir, de travailler à ce qu'on fasse peuple, de faire en sorte que les esprits chagrins aujourd'hui qu'on entend un peu partout, le tel polémiste de là, ici et là, qui se prennent pour des intellectuels.
Éric Zemmour, c'est à lui de,
on peut
que
y
vous
aller.
Pensez.
Lui, entre autres, puisqu'il y en a quelques-uns, ils ont pignon sur rue aujourd'hui, et c'est quasiment, c'est assourdissant, on n'entend qu'eux quasiment. Et ben de dire en fait que qu'ils prennent le mauvais chemin quelque part, de dire que... En pensant comme ça, en magnifiant une pensée binaire, en reculant de cette manière comme ça, en disant que l'âge d'or de la France est derrière nous et pas devant nous. Moi, je pense que l'âge d'or de la France est devant nous. En pensant à ça, si vous voulez, en parlant du passé. Pour moi, le passé est habité, donc inhabitable. L'idée, c'est de dire que comment on va habiter le présent et le futur. Et c'est ça. Et donc à partir de là, la manière dont j'aborde le texte, la manière dont je réfléchis autour du texte, la manière dont je mets en scène, forcément ça parle de tous et à tous. Donc fatalement, j'ai envie de dire, on a tous les âges, on a toutes les couleurs, on a la France dans sa richesse.
Alors le présent, il est aussi sur la scène du Théâtre du Châtelet à travers le chœur, à travers ces comédiens non professionnels originaires de Seine-Saint-Denis, grand département s'il en est de la région parisienne, et qui donc forment un chœur qui intervient à plusieurs reprises dans le spectacle entre les scènes.
Je pense que lorsqu'on ne croit plus en l'innocence, la justice passe au-dessus de la vie.
Pour moi, la vie et la révolution ne sont pas incompatibles. Je suis dans la révolution parce que j'aime la vie.
Je pense qu'on ne peut pas tuer pour lutter contre le despotisme.
Pour moi, la forme ultime de la tyrannie, c'est ôter la vie.
Je pense qu'on peut tuer une idée, mais pas un homme.
Gardez en tête la notion d'innocence aide à garder une certaine mesure dans la violence de la révolution.
Pour moi, la poésie, l'art participe toujours à la révolution, ou au moins donne l'idée de celle-ci.
Mais pour une vraie révolution,
il faut être dans l'action.
Une certaine forme de violence est nécessaire.
Je pense que pour faire la paix, il faut faire la guerre, c'est tout.
Je pense que si tout le monde avançait sans violence, si les humains pacifiaient leurs relations entre eux,
il y aurait moins de friction globale et moins d'inégalités.
Je pense que dans la violence, il y a une vraie pulsion de mort qui s'exprime. Un besoin de renouveau quand on ne supporte plus le présent.
Est-ce que vous les avez trouvés, ces néo-comédiens, Abdelmalik?
Alors, pour moi, je les considère ni comme des néo-comédiens, ni comme des comédiens amateurs, mais comme des artistes qui ont moins d'expérience que nous autres.
Mais néo-comédiens, c'est pas péjoratif. Et ça veut dire qu'ils sont nouveaux dans ce rôle.
Et je ne le vis pas comme ça, mais c'est pour enlever toute ambiguïté, tout simplement. Donc, c'était juste pour ajouter... Ben en fait, j'ai à Aulnay-sous-Bois, j'ai rencontré plus de 200 jeunes, et parmi ces 200 jeunes, j'en ai sélectionné 10, donc 5 garçons, 5 filles. Et l'idée c'était de monter une troupe avec eux. En banlieue, on a plein de théâtres qui sont prestigieux, mais on n'a pas tant que ça, pour pas dire pas du tout, de troupes qui viennent totalement de banlieue et qui sont dans une démarche qui soit purement artistique, pas liée à une démarche sociale ou quelque chose qui va avec ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est-à-dire rencontrer des jeunes artistes et leur donner une opportunité, qu'on puisse travailler et avancer ensemble. Et voilà, moi, je pense toujours au jeune Abdelmalik dans la cité. Je me dis, qu'est-ce qui aurait pu me faire gagner du temps et devenir plus vite l'artiste que je suis aujourd'hui. Et j'ai d'une certaine manière, Camus a été une main tendue pour moi. Et je me dis, en toute humilité, si je peux l'être également, c'est bien. Peut-être que in fine, ils ne deviendront pas des actrices ou des acteurs professionnels, mais ils auront appris quelque chose. Ils auront appris, je sais pas, peut-être cette idée de rigueur, cette idée qu'on peut faire des choses incroyables ensemble. Et toutes ces choses-là, ça pourra les aider dans leur propre vie, leur vie d'être et de citoyen.
Mais alors concrètement, comment vous avez travaillé avec eux?
C'est simple. Alors j'ai pris les acteurs plus expérimentés. Je suis allé à Sciences Po, j'ai pris des étudiants de Sciences Po, une trentaine, et il y a beaucoup d'entre eux qui n'étaient jamais allés en banlieue de leur vie, et on est tous allés à Aulnay-sous-Bois avec les jeunes acteurs, et on a travaillé le texte. On travaillait le texte pendant plusieurs mois. On a travaillé sur le texte, sur les justes de Camus. On s'est posé des questions. Eux ont énormément parlé des violences policières. Ils ont parlé de...
Plus ils étaient servis par l'actualité. C'était un hasard total, mais ça tombait un peu bien pour vous, finalement.
Sachez que chaque samedi, c'était à chaque acte nouveau des Gilets jaunes, on se réunissait. Donc, il y avait matière, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on a parlé, de ça, on a parlé de la problématique du climat, les problématiques migratoires, toutes ces choses-là. Et en quoi ça leur parlait, en quoi ça faisait écho au texte. Et c'était passionnant, en fait. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pris leurs mots, j'ai pas touché à leurs mots. Et ils disent, en fait, le cœur, ils disent leurs propres mots.
Ils crient souvent.
Ils crient.
Abdelmalik, c'était important de projeter, parce qu'en plus, ils sont vraiment en bord de scène et ils sont directement tournés vers le public. Ils le prennent à témoin.
Ouais, c'était vraiment, ils le prennent à témoin, et pour eux, d'une certaine manière, c'était faire la synthèse de tout ce qu'ils étaient en train d'entendre, lié à la pièce elle-même, mais lié aussi à eux, leur point de vue sur le monde. Et ils le crient au monde. Et mon idée aussi, c'était de dire que la jeunesse a une voix et cette voix doit être entendue. Et qu'il fallait faire attention à la condescendance qu'on peut avoir parce que jeune, parce que venant de banlieue, etc., parce que femme, etc., etc.
Je pense qu'une révolution doit porter des valeurs humaines.
Pour moi, elle n'a de sens que si elle doit rendre le monde meilleur, rendre la vie d'un maximum d'humains plus belle.
Mais si pour cela, elle doit sacrifier ne serait-ce qu'une vie,
alors elle n'a plus de sens.
Elle franchit une limite indépassable. La vie humaine devrait être la limite de tous les combats.
Elle devrait être la condition d'un combat juste.
Respecter la vie.
Je crois à un monde apaisé. Il l'est déjà par rapport au niveau de violence des sociétés passées. Et si on continuait? Et si on continuait à agir avec le plus de bienveillance possible, on apaiserait les frictions dans le monde.
On ouvrirait la voie à une autre forme de protestation. Et peut-être alors, il ne viendrait plus à l'esprit des hommes qu'ils soient justifiés de tuer.
Puisque tout n'a de sens que par rapport à la vie, respecter la vie est pour moi le critère de la justice.
C'est par le choc qu'on arrive à avoir une réponse. Dans une révolution, la violence est nécessaire. C'est malheureux.
J'aimerais que là,
qu'est-ce qui touche vraiment le public ?
Et là, Abdelmalik, on est vraiment à la confluence à travers cet extrait entre les justes de Camus et entre les propos tenus par les comédiens que vous avez donc projetés sur cette scène du théâtre du Châtelet dans votre spectacle. On pense évidemment aux Gilets jaunes, on pense à la mobilisation en faveur du climat, on pense aux opérations de désobéissance civile. Il y en a donc en ce moment, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, devant le théâtre du Châtelet, hein, sur la place, à travers ce groupe Extinction Rébellion qui a aussi occupé un centre commercial parisien, le centre commercial Italie 2, ce week-end. Quel regard est-ce que vous portez sur ces formes de mobilisation qui se veulent nouvelles et qui sont hors des clous des manifestations, on va dire, traditionnelles, des manifestations parisiennes, encadrées en particulier par les syndicats?
Je pense que c'est important parce qu'on est en démocratie, donc c'est important de pouvoir utiliser ses droits pleinement. Mais je pense que le danger, c'est de sortir du jeu démocratique. Je pense que
c'est très camusien ce que vous venez de dire.
Ben c'est camusien, mais j'ai envie de dire c'est faire preuve de responsabilité aussi. On peut pas, comment dire, c'est hyper important cette idée du jeu démocratique pour dire que la démocratie reste pertinente et que tout ce pourquoi tous ces gens sont morts, etc., ça vaut la peine. Donc le danger, en fait, de mon point de vue, c'est que tout d'un coup, parce qu'on est légitime, que ça vire à une forme d'anarchie et qu'il n'y ait pas de solution derrière. Et c'est en ce sens-là où pour moi, moi qui ai entendu tous ces jeunes, qui ai partagé avec eux, parlé avec eux, qui continuent, ils sont très, finalement, très au fait. Ils ont besoin néanmoins de comprendre que cette structure-là, la structure démocratique, reste pertinente. Sinon,
sauf que les personnages, pardon de vous couper, mais sauf que les personnages de la pièce de Camus, ce sont précisément des anarchistes.
Ce sont des
Malik.
Ils n'étaient pas dans une démocratie.
À travers la pièce, ils n'étaient pas effectivement dans une
démocratie.
C'est
important.
C'était effectivement plus qu'une nuance. Nous sommes d'accord.
Oui.
Mais est-ce que justement à travers la pièce, vous ne risquez pas d'introduire une forme de confusion, de proximité finalement, d'empathie du public vis-à-vis de ces anarchistes terroristes qui utilisent une forme de violence?
Non, parce que d'abord, je crois en l'intelligence du public. Réellement, je m'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il faut pas faire d'anachronisme. Chaque événement a lieu dans une époque, dans un contexte précis. Donc, on peut pas comme ça. Et évidemment, il y a des points de rencontre, il y a des effets miroirs, mais l'histoire ne se répète jamais, même si elle rime. C'est hyper important, ça. Et donc, en fait, mon idée, c'est tout simplement de dire que voilà, l'outil démocratique reste pertinent. Le fait de jouer dans un endroit comme le Théâtre du Châtelet, qui pour moi, c'est ces grandes institutions comme ça, culturelles, artistiques, sont pour moi des agora, des lieux de débat, des lieux d'échange, des lieux de réflexion nouvelle, etc. Mais toujours dans un cadre précis. Et c'est pour ça que mon travail en général aussi, c'est il y a cette idée de nous introduire dans les institutions, de rentrer à l'intérieur et de les revivifier d'une certaine manière. Et encore une fois, voilà. Donc, à partir du moment où on reste dans cette démarche en disant l'engagement, oui, mais que ça a des limites, et le fait de respecter la vie, le fait de respecter l'enfant et les innocents, ben, ça permet de donner, une éthique, une déontologie dans notre manière de faire les choses.
Alors, vous êtes un homme de mots. Abdelmalik, moi, il y a quelques mots comme ça qui m'ont vraiment frappé à la fois dans le spectacle, dans votre roman Méchante blessure, et puis dans ce que vous venez de dire depuis le début de cette émission sur RFI. Premier mot, c'est le mot révolution.
Mm-hmm.
En quoi une révolution est-il nécessaire aujourd'hui, et c'est quoi faire la révolution en 2019 en France?
Dans un
régime démocratique.
Bien sûr, et c'est une vraie question, puisque c'est une question que j'ai posée aux jeunes et que je demandais. Pour moi, quand je parle de révolution, c'est presque au sens étymologique du terme, c'est-à-dire revenir à l'idée de départ qui nous a motivés, qui a fait que finalement il y a eu la Révolution française, qui a fait qu'à un moment donné il y a ce refus de toute forme d'asservissement, cette idée de la justice mais pour tous. Donc revenir à ça, revenir à une idée, revenir d'une certaine manière remettre l'humain au centre. Et pour que cela puisse se faire de la bonne manière, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression que je vais employer, mais travailler à rendre sexy l'intelligence. Et pour moi, c'est ça la révolution. Comment on va devenir, on va magnifier la complexité. Comment on va comprendre que la nuance, c'est quelque chose d'important. Comment on va tout faire pour sortir d'une vision comme ça binaire des choses. Comment on va faire en sorte que on ne va plus voter pour des gens qui pensent que qui pense que ériger des murs, travailler à l'Europe des barbelés, dire que le déplacement, enfin ce qu'ils appellent la problématique migratoire vient de commencer là, alors que c'est quelque chose qui depuis le début de l'humanité a toujours eu lieu. Des gens qui essaient de trouver un consensus positif, ceux qui essaient de travailler à faire peuple, que tous ces gens-là, toutes ces idées-là puissent être magnifiées à nouveau. C'est ça pour moi la révolution. Et je terminerai en disant tout simplement, peut-être qu'on puisse parler à nouveau de deux choses, à savoir de l'empathie et peut-être aussi un peu de tendresse.
Et la tyrannie alors?
Eh ben la tyrannie,
c'est qui exerce une tyrannie aujourd'hui sur le peuple? Quels sont-ils les tyrans de 2019?
Vous savez, quand on discutait avec les jeunes de Sciences Po, avec les jeunes d'Aulnay-sous-Bois et les acteurs, je leur posais la question. Je disais quel est votre grand-duc, puisqu'on mettait toujours en lien avec quel est votre, et chacun répondait en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ben c'est assez simple. Hein, pour moi, c'est le règne de la quantité. On est dans un monde où on n'est pas par rapport à ce qu'on est, mais par rapport à ce qu'on a, où finalement la matière a pris le pas, où on va réfléchir en termes d'audimat. Parler d'honneur, c'est presque un gros mot. Parler de cohérence, alors là, et toutes ces choses là. Et pour moi, c'est tout ça est mené par un grand duc assez puissant que j'appelle l'ignorance et la bêtise. Voilà.
Donc il y a une forme de grand débat, sans être forcément macroniste, mais il y a une forme de grand débat finalement qui peut naître là dans cette salle de spectacle du Théâtre du Châtelet entre les comédiens, et le peuple qui se trouve dans la salle. Qu'est-ce que vous attendez du public?
Bah c'est ça, moi,
précisément, mon idée. Le public, parce que il n'y a pas de quatrième mur dans ce spectacle. Ouais. Vous lui parlez en permanence. Ouais. Il y a même des instants où les comédiens s'adressent directement, non seulement à la foule, mais à chacun d'entre nous.
Ouais. Bah, il y a cette idée, ouais, de faire tomber le quatrième mur, j'ai envie de dire. Mais il y a cette idée-là. Encore une fois, je vous ai dit que pour moi, ces lieux-là, des lieux comme le Châtelet, des lieux comme le Théâtre de la Ville, des lieux comme le Musée d'Orsay, enfin tous ces endroits où j'investis d'une certaine manière, il y a cette idée de dire que c'est des agora, c'est des endroits qui doivent être vivants.
Mais alors, qu'est-ce que vous attendez du public? Vous attendez qu'ils montent sur scène, qu'ils perturbent le spectacle et qu'ils disent « moi aussi, j'ai envie de faire la révolution, moi aussi, j'ai envie d'abattre tel ou tel type de tyrannie, moi aussi, des barrières ».
J'ai un grand projet, c'est le début en fait. Mon idée, c'est de monter cette pièce qui est en train de se jouer, de monter une autre pièce, je veux monter « Les mains sales » de Sartre. Et que depuis jouer.
Pendant.
Et
des choses à l'envers là, puisque Camus voulait répondre à ça.
Exactement. Et moi, je fais à l'inverse. Et pour que ensuite on sollicite le public et qu'on puisse parler, dialoguer, échanger, dire quelle est votre méthode, quel est votre point de vue, etc., etc. C'est ça que je veux faire. La réalité, c'est que quand les gens ils peuvent aimer ou ne pas aimer, mais qu'ils sortent de là pas indifférents, qu'il s'est passé quelque chose en fait, et qui invite à la réflexion.
Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien.
Que veux-tu dire?
On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, oui, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour trouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'un homme, se tenir debout et muet avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera au-devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur. Et je sais maintenant que je pourrais recommencer sans me sentir vidé de mon sang. Oui, j'ai honte, j'ai visé trop. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place, la seule dont je sois digne.
Voilà, Carré de Jatouré, hein, qui joue le rôle d'Alexis dans les justes que vous mettez en scène en ce moment au Théâtre du Châtelet. Abdelmalik, est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de violence légitime?
Oui.
Laquelle?
J'ai envie de dire une violence face à la bêtise et l'ignorance, c'est-à-dire être radical en amour. Aller jusqu'au bout de cette attitude respectueuse. Aller jusqu'au bout dans cette attitude de l'écoute. Quitte à ce qu'on se fasse traiter de tous les noms, mais ne jamais céder, j'ai envie de dire, à la forme de violence concrète qui est à tous les coins de rue, qui est à tous les débats télévisés, à toutes les rencontres, à toutes les confrontations entre les différents partis politiques, etc. J'ai envie de dire, on est français, en fait. Et être français, ça veut aussi dire un être au monde, une intelligence, cette capacité à être dans le débat contradictoire, le dialogue, et toujours essayer de maintenir ce lien-là. Et pour moi, il faut faire preuve de violence vis-à-vis, évidemment, de violence vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa propre bêtise pour la contenir au maximum et pour l'éliminer, j'ai envie de dire.
La désobéissance civile, c'est une forme de violence? C'est une forme acceptable ou pas?
Jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que la désobéissance civile concrètement, pour moi, c'est aussi important on peut pas, comment dire, on doit respecter les lois qu'on s'est mis nous-mêmes pour pouvoir vivre de manière harmonieuse dans la cité. Et ensuite, si ces lois sont injustes, eh ben on doit se battre pour justement les changer. Et pour pouvoir les changer, ces lois, eh ben on doit travailler avec l'outil démocratique. Et donc voilà.
L'outil démocratique, ça peut être aussi le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne que les Gilets jaunes mettent en tête de leurs revendications?
Bien sûr, mais il faut faire attention à une société qui serait gérée par l'émotion. Moi, je veux une société qui soit gérée, bien sûr, par le cœur, mais avant par l'esprit, par l'intelligence, par la chose rationnelle. Et des fois, il faut prendre du recul sur les choses. Et c'est pas parce qu'on est légitime qu'on a nécessairement raison tout le temps. Il faut pouvoir s'arrêter à un moment. Et c'est vrai qu'on est dans une société où tout va très vite. Et moi, en tout cas, je parle par expérience, quand ça va trop vite, on prend pas nécessairement les bonnes décisions.
Vous croyez encore en la démocratie représentative, Abdelmalik?
Ben, ai-je le choix? Parce que c'est quoi l'alternative, sinon? Donc, bien sûr, il faut se battre.
La démocratie directe, justement, à travers le RIC.
Ben, encore une fois, comment dire? Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion qu'on doit avoir sur la temporalité des choses. Et si, à tout bout de champ, on peut donner son avis, faire bouger, etc., etc. Je sais pas si c'est la meilleure des choses, parce qu'à un moment donné, il faut prendre du recul. Ce qui sera vrai à tel moment n'est pas nécessairement vrai à un autre moment. Et si on se laisse pas le temps de la réflexion, si on se laisse pas le temps de réfléchir et de mûrir les choses, alors à chaque indignation, on voudra un référendum. À chaque, il faut prendre le temps. Et pour moi, ce qui fait problème là-dedans, c'est cette histoire sur la temporalité, réellement.
Hier bin dine chome, dine chome, vous canir zio que finen, fun fisse, tout fisse, binir gestrom. Blanchen amor mit dem Körper von Ungläubigen.
La voix de Camille Joannest, la comédienne qui incarne l'âme russe dans Les Justes que vous présentez au Théâtre du Châtelet, Abdelmalik. Pourquoi dans cette pièce universelle, on le disait encore à l'instant, fallait-il du yiddish?
Mon idée, c'est que je voulais quelque chose, un être symbolique qui représente les damnés de la terre d'une certaine manière. Et j'ai voulu inscrire ça dans la culture russe. Et dans la culture russe, évidemment, très vite, on peut penser aux pogroms et tous ces gens finalement, de manière générale, qu'on a malmenés, qu'on a tués, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient en fait. Et pour moi, le fait que tout d'un coup, cette âme russe intervienne comme ça en yiddish, eh ben, elle parle pour tous, elle parle pour les femmes, elle parle pour les noirs, elle parle pour les juifs, elle parle pour tous ceux qui sont persécutés parce qu'ils sont tout simplement ce qu'ils sont.
Il y a une âme russe, est-ce qu'il y a une âme française?
Je pense, je dirais même qu'il y a un génie français. Et chaque culture comme ça a son génie et on doit travailler au dialogue des génies, j'ai envie de dire. Mais s'il y a quelque chose de commun entre tous ces génies-là, de mon point de vue, c'est justement cette capacité à l'intelligence et cette capacité au dialogue.
Vous étiez Régis, vous êtes devenu Abdelmalik quand vous êtes converti à l'islam. Vous avez suivi évidemment l'actualité de ces derniers jours. Abdelmalik, cette attaque terroriste la semaine dernière à la préfecture de police de Paris. On n'est pas très loin de l'île de la Cité, donc pas très loin du théâtre du Châtelet. Et depuis la semaine dernière, on répète à longueur d'antenne que la conversion à l'islam, eh ben c'est un élément qui aurait dû alerter les autorités, a fortiori quand le converti a un certain âge, quand il a passé, on va dire, la jeunesse où on se pose des questions et où on peut éventuellement se retourner. Se convertir à une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est un élément de suspicion aujourd'hui dans la société française.
Non, je pense que c'est basé sur la confusion qu'on fait entre islam et islamisme de manière générale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on devrait plutôt questionner nos sociétés sur la maladie mentale. C'est ça, à mon avis, le cœur du sujet. Pour moi, on parle de la partie visible de l'iceberg. Bien sûr, les différents terroristes se réclament de l'islam. Mais l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de respect, de dialogue. Et qu'importe qu'il y a certaines personnes qui se réclament de l'islam et font ça. Je veux dire, après, chaque être doit incarner les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans une société où la maladie mentale est réelle et concrète et touche des gens précis qu'on peut repérer. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut travailler après, qu'ils prennent. Si aujourd'hui la problématique c'était pas l'islam, mais c'était, je sais pas, s'il y avait des bouddhistes terroristes, eh ben ils deviendraient bouddhistes. Enfin, je veux dire, c'est presque. Il faut aller au cœur du problème, sinon ça sera toujours pansement sur jambe de bois.
Mais on a besoin de spiritualité aujourd'hui en France.
De mon point de vue.
C'est ce que dit votre narrateur dans Méchantes blessures.
Non seulement on a besoin de spiritualité en France, mais on a besoin de spiritualité dans le monde. Et encore une fois, vous avez bien compris que je parle pas de religion. On peut croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Mais quand je parle de spiritualité, c'est le fait de se dire que on est différent, on a nos histoires singulières, on est homme, femme, etc. Mais il y a quelque chose de fondamental qui nous lie, c'est que nous sommes des êtres humains. Et cet écho là, c'est cette idée de dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et cette chose qui nous dépasse, de mon point de vue, eh ben c'est cette spiritualité là, et on doit la magnifier. Et de mon point de vue, on ne la magnifie pas suffisamment.
Merci beaucoup, Abdelmalik. Méchante blessure, votre roman chez Plon, et puis le spectacle Les Justes jusqu'au 19 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors si je vous dis La liberté guidant le peuple, Les nymphéas ou encore La création d'Adam de Michel-Ange, j'imagine que ces tableaux se dessinent presque immédiatement sous vos yeux à leur simple évocation. L'artiste français Brusque, célèbre surtout pour ses graffitis, a décidé lui aussi de poser son regard sur ces œuvres majeures de l'histoire de l'art, mais il les revisite à sa façon, disons, à travers l'exposition Innominé Artists, exposition qui se tient en ce moment à Paris à la galerie Laurence Trouc et que Fanny Blechner a visité pour nous.
Des grottes de Lascaux aux artistes du XXIe siècle, l'exposition est un véritable voyage dans l'histoire de la peinture. Tour d'horizon avec Mathieu, un visiteur.
Mais Guernica, qui est devant moi, les tournesols de Van Gogh, Delacroix, Andy Warhol en bas, le portrait de Marilyn. Ce qui me plaît, c'est la reprise du mythe, avec une forme très contemporaine de la violence du temps.
Au total, une quarantaine d'œuvres ont été choisies par Brusque et sa compagne Emma. Des œuvres qui se veulent à la fois universelles et très personnelles, à l'image de cette réinterprétation de Guernica de Picasso.
Pour la petite histoire, voilà, moi, il y a ma grand-mère qui s'est vue offrir une lithographie de Guernica. Et du coup, j'ai passé toute mon enfance chez elle, avec cette litho au mur, avec tous les grands repas de famille. Du coup, voilà, j'ai grandi avec elle. Par exemple, voilà, c'est ce genre de détail qui a fait que mon choix s'est axé sur cette toile-là, par exemple.
Autre tableau qui attire l'œil du visiteur, la réinterprétation du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Dans cette version contemporaine, les personnages ont quitté les lieux, laissant un monceau de détritus sur la nappe et des arbres tagués.
Celle-là, c'est l'exemple frappant, effectivement, d'une œuvre qui est réinterprétée, qui est réactualisée. À chaque œuvre que j'ai reprise, je me suis amusé à reprendre aussi la technique de l'artiste, plus ou moins. J'ai dû, à chaque œuvre, me réapproprier la technique, le médium, et m'amuser avec ça. Du coup, c'était un bonheur, vraiment, complet de A à Z. Et en fait, c'est la même toile d'époque, sauf que je l'ai réactualisée, et en fait, on parle du Déjeuner sur l'herbe, mais qu'est-ce qu'il y avait après le déjeuner? Du coup, ils ont tout laissé en plan, c'est le bordel, ils polluent, ils s'en foutent.
Brusque poursuit un travail engagé. Les tournesols de Van Gogh présentent ainsi une tête de mort en leur cœur et se voient rebaptiser les toxiques. Tandis qu'à côté d'une peinture d'un buste de Marianne, multicolore et qui semble voler en éclats, une légende indique LBD 40.
On cherche à chaque fois l'équilibre entre l'actualité, le passé, ce que je vais apporter comme message et qu'est-ce que je vais véhiculer comme idée pour les gens. Mais des choses assez simples, assez percutantes. Et effectivement, la Marianne, par rapport à ce qui se passe maintenant, au gilet jaune, au manif et tout ça, la liberté d'expression et tout le reste, voilà.
D'une œuvre à l'autre, la technique utilisée diffère, un véritable défi pour Bruce.
C'est clair que je suis sorti un peu de ma zone de confort, on va dire. La facilité, j'essaye un peu de la fuir en général, j'essaye. Et là justement, j'ai essayé de reprendre chaque médium propre à chaque œuvre reprise. Et du coup, je passe du pastel sec, pastel à l'huile, aquarelle, acrylique, bombe. Mais pas trop de bombe au final, d'ailleurs, beaucoup moins que d'habitude. J'ai pris ce temps-là que je ne me permets pas d'habitude, aller ailleurs dans ma technique par rapport au street art et au graffiti, donc la bombe de peinture. Les murs me manquent, effectivement, mais après c'est vraiment des choix aussi... Où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je mets mon temps? Donc là maintenant j'ai envie de faire des murs, mais j'en fais quand même beaucoup moins qu'avant. Je suis plus du tout un graffeur ou un street artist, j'en fais très très peu. Mais voilà, quand j'en fais c'est des gros, j'en fais 3-4 par an et ça me suffit.
Autre technique utilisée pour cette exposition, la sculpture. La centauresse de Rodin devient ainsi un centaure doré au buste d'homme, mais dont le reste du corps est un caddie rempli à ras-bord et qui semble se cabrer.
Elle fait 900 kilos. C'était un travail fastidieux qui a demandé l'aide de 4 personnes. Il y avait Davide Galbatti, qui est un sculpteur italien. Il y a 3 autres personnes, c'est Hervé Lacroix, Black Messenger et Mathieu Valette qui m'ont aidé à faire tous les objets en béton, la technique, le métal. Voilà.
Au final, c'est tout un parcours ludique et non chronologique qui invite les visiteurs à voir d'un nouvel œil ces tableaux qu'ils pensaient connaître sur le bout des doigts.
Reportage de Fanny Blechner, l'exposition Innominé Artiste de Brusque en collaboration avec sa compagne Emma, à découvrir donc à la galerie Laurence Trouc à Paris. C'est jusqu'au 12 octobre. Le journal dans une poignée de secondes. On se retrouve demain avec à nouveau du spectacle vivant du théâtre de Shakespeare, cette fois à l'affiche du théâtre du Vieux Colombier à Paris. Jules César, mise en scène de Rodolphe Dana avec la troupe de la Comédie Française, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.